La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Lanjou.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibaut de Ravel d'Esclapon. Bonjour Thibaut.
Bonjour Magali.
Qui est auteur d'un ouvrage qui a un certain succès, un succès certain, La justice au cinéma, publié cet automne chez Lefèvre d'Alos. Et nous avons le plaisir de découvrir cet ouvrage, de découvrir son auteur et de découvrir sa passion pour le cinéma.
Merci beaucoup, je suis ravi d'être là en tout cas ce matin.
Merci à vous. Un juriste qui aime le cinéma, est-ce que c'est rare hein?
Alors, je crois pas. Non, on est quand même aujourd'hui beaucoup de collègues, et puis au-delà des universitaires, à aimer le cinéma. Ça, je pense qu'on est beaucoup, et précisément, enfin, vous, moi, c'est agréable de pouvoir se retrouver entre juristes pour en discuter. Mais je crois qu'on commence à être de plus en plus à le dire, surtout.
Ah, voilà. Il y avait une sorte de tabou, c'était une passion secrète.
Alors je ne sais pas s'il y avait un tabou, mais en tout cas c'était une passion, mais qu'on dévoilait un petit peu moins, qu'on évoquait moins. Aujourd'hui je trouve qu'on en parle beaucoup plus, sans doute parce qu'on suit l'actualité aussi, qu'il y a beaucoup de films de procès, donc on peut révéler finalement un peu notre passion pour le cinéma. Oui.
D'accord. Et vous, votre passion, elle vient d'où ?
Alors, ma passion pour le cinéma, j'aurais beaucoup de mal à la dater, à dire vrai. Elle vient depuis que j'ai découvert le cinéma, cinéma américain notamment. C'était les premiers grands films que j'ai beaucoup appréciés, qui n'avaient rien à voir avec le droit. Je pense au Cercle des poètes disparus, comme beaucoup de gens aussi, évidemment, qui est un des films qui m'a marqué. Mais en tout cas, elle date de très loin, voilà, je crois, dans mon parcours personnel.
D'accord. Et est-ce que vous utilisez le cinéma dans vos cours? Parce que j'ai oublié de le dire, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, maître de conférence, habilité à diriger les recherches en droit privé.
Voilà, c'est ça. Alors effectivement, je l'utilise alors dans les limites contraintes, vous les connaissez Magali, dans les limites physiques contraintes que permet les enseignements à l'université, c'est pas toujours très simple, même si on s'améliore en termes de technique. Mais voilà, j'essaye de projeter des extraits de temps à autre de films pour pouvoir susciter la réflexion, voir un film en entier. J'avais projeté, je me souviens, 12 hommes en colère dans un cours d'introduction au droit anglo-saxon. Donc voilà, j'essaye en tout cas, autant que faire se peut.
D'accord. Donc vous mobilisez des ressources cinématographiques, en plus des ressources textuelles, jurisprudentielles, doctrinales. Et en particulier quand vous êtes avec la procédure en vigueur dans les pays anglo-saxons et la common law.
Voilà, effectivement, c'est une idée. Et du reste, c'est aussi, ça permet soit d'expliquer finalement, mais ça permet aussi de susciter chez les étudiants leur critique sur un sujet, sur un sujet de société. Donc je l'utilise aussi pour ça. Je crois qu'un film est très bon pour critiquer, pour dénoncer. Et c'est un moyen qui est excellent pour nos étudiants, pour susciter leur faculté critique.
D'accord. Et est-ce qu'à la suite de ces extraits, vous avez des étudiants qui vont voir, qui se procurent le film et qui vont le visionner en entier?
Je pense, oui, effectivement. Je me souviens quand j'ai... En tout cas, j'espère. C'est l'un des desseins de ce genre de démarche. En tout cas, ça suscite vraiment, ça suscite des débats. Je me souviens d'avoir projeté, comme je vous le disais à l'instant, 12 hommes en colère en amphi de deuxième année dans un amphithéâtre consacré à l'introduction au droit anglo-saxon. Donc, on discutait de jury. Le film a suscité un débat passionnant et j'ai beaucoup appris, alors que je l'ai vu comme vous sans doute plus d'une dizaine de fois, mais j'ai beaucoup appris par les réflexions de mes étudiants aussi, donc ça nourrit un échange. Et ça, c'est extraordinaire pour les enseignants que nous sommes.
Effectivement, des réflexions et puis un œil neuf qui n'est pas forcément habitué non seulement à cette procédure, mais également à cette façon de filmer. Et puis, surtout que là, vous me parlez de 12 hommes en colère, c'est un film en noir et blanc. Donc pour cette génération, un film en noir et blanc, ça veut dire un film sorti des catacombes.
Exactement,
quasiment.
Exactement. Et je vous donne un exemple juste sur l'œil neuf. Justement, ce film que j'ai vu 10-20 fois, je me souviens qu'on parlait de la question du jury, et évidemment on en reparlera peut-être, mais le jury est un jury de 12 hommes, 12 hommes blancs, c'est quand même une question qui interroge beaucoup, et je m'étais dit, il n'y a pas de femmes dans le jury évidemment, et donc je supposais que la procédure à l'époque réservait aux hommes, et en réalité une étudiante m'a fait la réflexion, mais regardez monsieur, peut-être pas forcément, puisqu'il y a des toilettes pour femmes dans la salle du jury room, donc c'est peut-être qu'en réalité elles étaient déjà autorisées, et donc c'est un choix délibéré d'avoir mis 12 hommes. Et du coup, après, évidemment, j'ai fait des recherches, bon voilà, mais ça a été, je ne l'avais pas vu en 9 ou 10 fois après l'avoir visionné. Voilà, c'est assez intéressant.
Et pour votre ouvrage, alors, comment avez-vous procédé? Est-ce que ce sont à partir de films dont vous avez montré intégralement ou des extraits aux étudiants, ou est-ce que ce sont des films que vous aimez, vous, particulièrement? Comment s'est opérée la sélection?
Alors, j'ai pris des films que j'aimais particulièrement. Voilà. Comme je l'explique dans l'introduction, c'était très compliqué, évidemment, d'être exhaustif, puisqu'il y a le genre de film de procès est aujourd'hui infini et a vocation à continuer, et c'est heureux. Donc, du coup, j'ai choisi un inventaire à la Prévert, en prenant les films qui, moi, me parlaient. Alors, Les Incontournables, bien sûr, vous avez déjà cité 12 hommes en colère, mais d'autres comme Autopsie d'un meurtre, etc. J'ai pris des films qui me parlaient, qui me sentaient refléter une forme de diversité en termes d'origine géographique, États-Unis, européens. Voilà, il en manque très clairement des très bons, To Kill a Mockingbird, etc. Bien sûr, mais voilà, les limites de l'ouvrage faisaient que ça ne pouvait se faire que comme ça.
Et c'est un ouvrage qui est vraiment une sorte de bible, hein, parce que, alors vous le dites, hein, il n'est pas exhaustif,
non,
forcément
surtout
il y a
pas,
une sélection,
bien sûr, ouais.
Il y aura peut-être un deuxième volume.
J'espère, voilà, il faut que celui-ci marche. Oui, oui.
Mais c'est vrai que vous avez une vision pas forcément exhaustive, je pense qu'on ne peut jamais l'être, mais vous avez une vision très, très large, à la fois dans votre recherche documentaire, dans votre regard, le regard et l'analyse que vous portez sur le film, ce qui fait que quelqu'un qui n'aurait rien lu, qui n'aurait rien vu de ce film, soit débute par la lecture de votre chapitre, parce qu'à chaque fois c'est
un
chapitre,
voilà,
par film, ou alors il voit le film et il se plonge dans la lecture ensuite,
voilà,
de votre ouvrage, et il va en ressortir enrichi.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'était ce que vous décrivez est très intéressant. C'était une de mes grandes questions, vous vous en doutez. C'était, est-ce que je dévoile ou pas la fin des films? Est-ce qu'il faut regarder le film d'abord, puis lire le livre, lire le chapitre, puis regarder le film? C'était une démarche compliquée, je le dis dès le début, notamment, bien sûr, pour l'excellent film de Billy Wilder, Témoin à charge, où il y a un retournement de situation à la fin qui est incroyable et qu'on ne peut pas dévoiler, surtout pas ici, sinon on bouderait le plaisir. Et même le public avait reçu des petits cartes leur indiquant qu'il fallait surtout pas dévoiler la fin, etc. Donc j'ai essayé autant que faire se peut là aussi de pas trop dévoiler pour qu'on puisse d'abord lire le livre et puis éventuellement aller voir le film. Mais il y a quelques fois où malheureusement la fin est connue.
Quels sont les retours de vos collègues universitaires sur cet ouvrage?
Écoutez, les quelques collègues que j'ai envoyés avaient l'air satisfaits, même si c'est difficile de faire une revue de critique des collègues, mais je crois que ça a bien, ça a bien fonctionné. On a fait plusieurs présentations dans des librairies, etc., avec des collègues. À chaque fois, on a eu des discussions très nourries, très stimulantes, chez Dalloz, à Kléber, à Strasbourg, etc., où vraiment, on avait de bonnes discussions et toujours cette idée, sans remplacer évidemment le cours traditionnel, pas du tout, mais cette idée que le cinéma peut parfois être un bon moyen pour enseigner, sans, encore une fois, bien sûr, changer nos canons traditionnels.
Oui, oui. C'est
un élément parmi d'autres, si je peux dire, mais qui peut plaire à nos étudiants.
Qui peut plaire à nos étudiants et qui peut les amener, effectivement.
C'est ça.
La fiction, je considère toujours que la fiction est un élément important pour comprendre le droit, pour comprendre les éléments de la justice.
Hein. Et puis cette idée aussi qu'il faut bien qu'on... réconcilier n'est pas le mot, mais j'allais dire, il faut bien qu'on réconcilie nos étudiants avec le droit, c'est pas ça, mais peut-être il faut bien qu'on attire nos étudiants avec le droit aussi, et les étudiants vont au cinéma, regardent des séries, lisent des romans, donc il faut quand même aussi qu'on arrive à les attirer à nous.
Oui, oui, qu'ils ne soient pas totalement désincarnés.
C'est ça, exactement.
Qu'ils puissent s'incarner dans des personnages de fiction.
Effectivement, quand on voit le jury 8 dans 12 hommes en colère, quand on voit Paul Newman dans Le Verdict, on ne peut que s'incarner avec lui, avec ces deux-là.
Deux excellents acteurs.
Oui, extraordinaire.
Si on fait un petit focus sur la version états-unienne, hein, puisque vous nous dites c'est d'abord les films de procès, les films de prétoire, hein, le genre film de prétoire,
ouais, bien sûr,
débute aux États-Unis. Et si on retient parmi ces cinéastes qui s'y sont intéressés, parce que quasiment tous s'y sont intéressés, si on s'intéresse au travail de Sidney Lumet, qu'est-ce que vous pourriez dire de Sidney Lumet en tant que cinéaste?
Alors, Sidney Lumet en tant que cinéaste, d'abord, je crois que sur le plan général, c'est sans doute l'un des plus grands cinéastes américains de la deuxième moitié du XXe siècle. En tout cas, pour moi, ça c'est certain, dans des genres très divers. Si vous prenez son dernier film que j'ai revu récemment, 7h58 ce samedi-là, qui n'est pas du tout un film de procès, c'est un film qui est exceptionnel, qui est dur, qui est tourné avec une qui est glaçant, enfin vraiment, qui est impressionnant. Donc c'est un très grand cinéaste, et je crois que c'est le grand cinéaste contemporain, l'un des grands cinéastes contemporains. contemporain du film de procès. Il s'est illustré dans beaucoup de films qui mettent en scène la justice. Je pense bien sûr à son film inaugural, 12 hommes en colère, parce qu'il inaugure sa carrière avec un chef-d'œuvre. Et c'est pas simple, en fait, d'inaugurer sa carrière avec un chef-d'œuvre, parce qu'il a fallu tout au long de sa carrière, on l'a toujours mesuré à ce film de 57, quand il a sorti le verdict. On l'a évidemment comparé au film de 57, 30 ans après. Donc voilà, c'est le grand cinéaste de la justice, très clairement. Et il n'y a pas que les deux qu'on évoque aujourd'hui. Il y a Jugez-moi coupable, qui est dans un registre plus amusant, plus léger, mais qui reste un bon film aussi. Enfin, là, il y en a quelques-uns quand même. Moi, je trouve que c'est un très grand cinéaste, Lumet. C'est un cinéaste de la justice, c'est un cinéaste de la passion, c'est un cinéaste, enfin, des passions humaines. C'est un cinéaste,
oui, des passions humaines.
Des
oui.
passions humaines, plutôt. C'est un cinéaste extraordinaire à tout niveau.
Et un cinéaste qui n'est pas forcément encore apprécié à sa juste valeur. Il est écrasé par d'autres grandes figures.
Oui, clairement. Oui, je suis entièrement d'accord. Des figures qui méritent sans doute aussi d'être portées au pinacle, mais c'est sûr qu'on retient plus Scorsese que Lumet, alors que Lumet, encore une fois, et aussi le maître du plan. Il y a les plans dans 12 hommes en colère dont on parle jamais, ce plafond qui progressivement baisse, etc. C'est des idées géniales, en réalité.
Est-ce que vous pouvez un peu retracer son parcours, parce que 12 hommes en colère est son premier film. Qu'est-ce qu'il a fait avant?
Avant, c'était plutôt un homme de théâtre. Mais il était très jeune, hein, pour 12 hommes en colère. J'ai plus en tête la date de naissance de Lumet, mais je crois qu'il avait 32 ans, à peine 30 ans. Donc il avait commencé par le théâtre, par un petit peu de télévision aussi, et 12 hommes en colère a signé sa carrière au cinéma, le début de sa carrière, puisque ça a été un succès, non, pas tout de suite, c'est devenu un succès ensuite, mais c'est vraiment avec 12 hommes en colère qu'il est rentré au cinéma. Alors après, ça s'est plus arrêté, à la recherche de Greta Garbo, il y en a eu vraiment toute une série, et il s'est jamais, j'insiste vraiment, mais vous le disiez, il s'est jamais éloigné du genre de justice, jamais. À plusieurs, et même s'il y a deux focus impressionnants, 12 hommes en colère et le verdict, il ne s'en est jamais éloigné.
Oui, il interroge la société et il ne perd jamais de vue à la fois que la société est complexe, et pour un cinéaste états-unien, qu'elle n'est pas d'un côté blanc, d'un côté noir, mais qu'elle est plutôt dans une zone grise.
Bien sûr, elle n'est pas du tout manichéenne, effectivement.
Voilà.
Et
qu'il faut ne pas oublier l'humanité qui est en chacun d'entre nous, même les pires des salauds d'humanité.
Ah, totalement, totalement. Alors on a effectivement un peu de mal à le voir dans le personnage qui est opposé à Francis Pegelvin dans le verdict, dans l'avocat Concannon, qui a l'air quand même assez peu recommandable, mais sans doute que lui aussi, si un jour il avait un problème...
Enfin, socialement et financièrement, il est recommandable.
Ah, il est recommandable, mais c'est vrai qu'en revanche, alors ça, oui, il est beaucoup plus que Galvin, enfin, que ce que Galvin est devenu, on va dire, mais du coup, on a du mal à l'aimer, mais c'est sûr que même lui mériterait sans doute s'il y avait d'être défendu. Et il arrive, bien sûr, il arrive à démontrer cela, le maître, je trouve, vraiment. Et je trouve que ce qu'il arrive à faire, c'est pour ça que c'est un grand cinéaste pour nos étudiants, c'est que le propos de Lumet n'écrase pas la tension dramatique. Ça, je crois que c'est très fort. Et c'est ce qui fait la qualité d'un film de procès, comme dans Anatomie d'une chute, c'est que le propos n'écrase pas le propos juridique n'écrase pas la tension. Et ça, c'est extraordinaire. On reste scotché pendant 1h20. Est-ce que le jury vide va réussir à faire basculer ou pas le jury?
Tout à fait. Est-ce que les films qui réussissent à bien capter l'auditoire et les spectateurs, ce sont ceux qui sont à la fois compréhensibles par le spécialiste, par le juriste, mais aussi par le néophyte.
Exactement.
Et chacun y rentre par sa porte d'entrée.
Exactement.
Et s'y retrouve malgré tout. On a parlé un petit peu du système, on va surtout évoquer le système états-unien, donc à travers ces deux films de Sidney Lumet, donc 12 hommes en colère et The Verdict. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, puisque vous faites du droit comparé, sur la procédure en common law?
Alors,
quelles sont ses caractéristiques?
C'est une procédure qui est très différente de la nôtre. C'est vrai, c'est sans doute pour ça que le cinéma américain s'est emparé du genre de procès, du genre du film de procès avant nous. C'est une procédure qui, globalement, met plutôt, même si elle a des nuances, mais je veux dire, le rôle des avocats ici est très à l'avant dans la procédure de type anglo-saxon. Les avocats montent au filet, discutent, conduisent le procès sous l'œil bienveillant ou non du magistrat, mais qui a plus un rôle de surveillant, mais vous voyez l'idée, d'arbitre, voilà,
oui.
Merci. Effectivement, c'est ce qui donne sans doute lieu à ces très belles joutes oratoires, à ces très beaux moments qu'on trouve par exemple dans Autopsie d'un meurtre, où là vraiment c'est ça, la quintessence même de ça. C'est une procédure aussi qui laisse une place, par le fait qu'il n'y ait pas de juge d'instruction, qui laisse une place aux investigations des avocats, qui font d'excellents films. Je pense à Erin Brockovich, qui est un film de justice, mais qui est pas un film stricto sensu de procès, puisqu'il y a à peine 5 minutes de procès, et 5 minutes, je suis large, mais on voit en revanche Erin investiguer, etc.
Donc ça, c'est, qui elle-même n'est pas avocate.
Qui elle-même n'est pas avocate.
Est c'est une Ed
Mastry, effectivement, c'est une assistante d'Ed Mastry, qui est un personnage qui, elle aussi, a existé. Voilà, donc ça laisse la place à ça. Tandis qu'en France, notre procédure, avec un président, évidemment, cette fois-ci, qui n'est plus simplement arbitre, mais qui conduit les débats, qui les dirige, notre procédure... laisse peut-être un peu moins de place aux avocats. Et encore, je crois qu'on pourrait nuancer, puisque les nouveaux films d'aujourd'hui, quand je dis nouveaux films, ceux qu'on voit aujourd'hui, les films français de procès, montrent quand même que les discussions au tribunal peuvent aussi, en France, être le lieu de bons films, très clairement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu opposé ça, la place du magistrat dans les deux types de procédures.
Procédure accusatoire.
Voilà, accusatoire-inquisitoire, pardon, voilà. Effectivement. Ouais, ouais. Tout à fait.
Un grand rôle aussi qui est laissé à la jurisprudence, ce qui est oui. Moins le cas. Et alors vous êtes en droit privé où certains auteurs continuent à dire dans les ouvrages d'introduction au droit que la jurisprudence n'est pas une source du droit.
Ah oui, c'est sûr que ça reste toujours un gros débat. Bien sûr,
quand on est publiciste,
effaré,
évidemment.
Chez vous, on peut pas. Voilà, si on dit ça du Conseil d'État, c'est gênant. Ouais. Voilà.
Voilà. Donc cette place de la jurisprudence, eh bien, on va en retrouver une trace dans le premier extrait que nous allons écouter. Ce premier extrait est tiré du Verdict, donc le film de 1982. Et nous avons... nous en parlerons. Nous l'écoutons d'abord et puis nous en parlerons ensuite.
So, what do we got? Well, we got our sister. Says that Deborah Ann made a full meal an hour before she was admitted to the hospital.
We got the admittance form says she ate 9 hours before she admitted to the hospital. Sister's testimony's no good. I mean, the jury knows if we win, she gets the cash.
We got my Dr. Gruber. Says she was given the wrong anesthetic. And anyway, she came in complaining of nausea.
Well, Gruber's not bad.
Not bad. He's Dr. Kildare, the jury lead him up.
Yeah. But their guy is Tower. He wrote the book, Methodology and Practice in Anesthesiology. Everybody in that operating room signed a deposition, from the scrub nurse on up. All those guys are God. I saw them walk on water.
They had an obstetric nurse in there. Did we get a deposition from her?
No.
Maureen Rooney, age 49, lives in Arlington. Still works at the hospital. You think you get out there tomorrow, talk to her, ask her why she ain't speaking up?
Yeah.
Okay, cases. All right. Smith versus State of Michigan.
All right.
DZ versus Electric Boat.
Hey, you got a good memory, Frankie.
I had a good teacher. McLean versus Urban Transport.
Right.
Voilà, ce premier extrait tiré du Verdict réunit deux hommes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Oui, alors il réunit Francis P. Galvin, qui est l'avocat qui va s'occuper de Deborah Ann Case, cette jeune femme qui, par une erreur d'anesthésie, tout le débat sera de savoir si c'est une erreur ou une négligence, enfin, en tout cas, une vraie négligence, donc il la défend. Il la défend contre l'archevêché de Boston qui possède l'hôpital dans lequel elle a été mal soignée, et donc il est dans la bibliothèque avec l'un de ses anciens associés.
Qui est aussi son mentor.
Qui est aussi son mentor, effectivement, qui l'a beaucoup aidé. C'est lui qui l'a trouvé le case, d'ailleurs, celui-ci. C'est lui qui l'a aidé et c'est vraiment lui qui le sort. C'était un peu houleux au début du film, d'ailleurs, parce qu'il l'avait un peu renvoyé paître et finalement, ils se sont réconciliés. Voilà. Donc, ils sont tous les deux à la bibliothèque en train de chercher un précédent à propos de l'affaire, un précédent sur la négligence médicale.
Voilà, parce que la jeune femme était enceinte. Hein.
Alors, je ne me souviens plus, pour tout vous avouer, il me semble, mais en tout cas elle ne marche
voilà.
plus à cause
voilà,
de...
Elle est dans un état végétatif
complet.
Voilà, ouais. À la suite de...
Ouais. C'est sa sœur et son beau-frère qui s'occupent d'elle. Voilà.
Son mari et sa sœur.
Le binôme, effectivement.
Voilà, qui veut comprendre les raisons pour lesquelles une jeune femme saine, enceinte, se retrouve dans cet état.
C'est ça, voilà.
Donc nous sommes ici dans cette bibliothèque et vous me parliez du talent de Lumette pour la mise en scène. Comment se traduit-il dans cette séquence?
Ah ben là, moi je trouve que alors c'est très subjectif pour moi, c'est très subjectif là où éclot le talent de Lumette, c'est que moi je trouve précisément que Lumette ici parvient à illustrer magistralement ce que les Anglais appellent the rule of precedent, c'est-à-dire que la règle du précédent, il faut absolument trouver un case, c'est-à-dire qu'on ne commence pas une affaire aux États-Unis États-Unis, une fois qu'on a compris les faits, on ne commence pas une affaire sans chercher un précédent auquel on peut se raccrocher. Et c'est, en gros, Lemet et son associé, son partenaire, décident, regarde un peu les faits, alors il explique qu'il a le docteur Gruber, etc. Et puis après, on passe immédiatement au case. Qu'est-ce que j'ai comme case? À quoi je vais pouvoir me raccrocher? On est dans une bibliothèque, ils sont là tels deux étudiants, d'ailleurs il parle de son ancien teacher, et il cherche un case. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour illustrer cela. On a dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, Autopsie d'un meurtre, on a exactement le même genre de scène entre James Stewart et son autre associé. Le rapport est un peu inversé, c'est dans le film de Preminger, c'est James Stewart qui est sobre et c'est son associé qui est plutôt alcoolique. Et du coup, ils sont là aussi en train de chercher un case. Ils ont trouvé un Durfee, justement, qui est un case un peu particulier. Et ils cherchent en bibliothèque. Il faut se raccrocher absolument. Parce que si on a le case, on a le cas. Si on a le case, on a gagné.
C'est ça, voilà. La règle du précédent, on se rattache à cette solution jurisprudentielle qui n'est pas une solution jurisprudentielle qui est variable toutes les semaines ou tous les mois. Non, c'est une solution
jurisprudentielle
qui permet la sécurité juridique. Là où, chez nous, nous sommes avec, régulièrement, un texte écrit, donc consultable, utilisable, mobilisable par tout un chacun.
C'est ça, les anglo-saxons, pour pouvoir sortir d'un cas, il y a une opération intellectuelle qui s'appelle le distinguishing, qui est quand même très compliquée, il faut vraiment démontrer que les circonstances ne sont pas les mêmes, etc. Donc sinon, si vous êtes dans les limites du case, du cas, du précédent, vraiment, vous
on déroule un tapis.
C'est
ça. Voilà. Donc, c'est ce premier extrait. Donc, nous avons ces deux hommes, ces deux avocats. Alors, le Mickey Morrissey, visiblement, est à la retraite.
En fin d'activité.
Voilà. Et il a réussi à refaire monter en selle son ancien associé, qui est aussi ancien élève, étudiant, etc. Donc, Francis P. Galvin, dont vous l'avez dit au début. On découvre. Donc, nous sommes à Boston, en Nouvelle-Angleterre.
Exactement.
Et la séquence de début du film, on ne l'a pas racontée.
Ah, la séquence de début du film, elle est terrible, je trouve. C'est une des plus belles cinématographiquement. C'est la déchéance de Galvin filmée. On voit la matérialité de la déchéance de Galvin. Galvin est dans un funérarium. Au tout début, il est en train normalement de...
Il joue au flipper,
effectivement.
Dans un bar,
c'est vrai, avec des couleurs très froides, très grises, effectivement. Il joue au flipper. Et après, il est dans un funérarium où il fait vraiment ce qu'on appelle l'ambulance chasing. Mais donc, c'est vrai qu'il y a un côté très désœuvré dans la première scène. On voit Galvin qui joue parce qu'il n'a pas de dossier, à dire vrai.
C'était quelqu'un qui était introduit dans la bonne société bostonienne.
Ah oui, il avait épousé la femme de son ex-associé, ceux qui l'ont mis sur la porte, et puis il y a eu un problème de subornation de témoins à un moment donné, qu'il a dénoncé. Et il a été quasi radié du barreau. Hein. Et donc déchéance complète, alcoolisme,
divorce, etc. Voilà, ouais. Donc là, nous sommes avec un homme seul, à qui son ancien associé, maître, confie un dossier qui est visiblement gagnable sans coup férir.
Voilà. On lui confie un dossier. Donc Morrissey arrive avec un dossier contre l'archevêché de Boston qui possède l'hôpital dans lequel a été soignée la jeune Deborah Ann Kay. Et effectivement, l'idée de Morrissey, c'était de lui dire, finalement, c'est même pas la peine d'aller au procès, tu peux avoir une transaction très vite, ce que les Anglais appellent un settlement, et tu peux facilement avoir 200 000 dollars. Alors, l'archevêché en propose 210 000, évidemment. Comme ça, on va diviser en trois, et puisque la règle étant de prendre en général un tiers quand on a un accord, et puis tu peux très vite avoir...
Un tiers pour l'avocat.
Au titre des honoraires, et comme ça, tu as très facilement 70 000 dollars. Donc, c'était censé être pour Galvin un moyen de se refaire. Voilà. Rapidement, 70 000 dollars.
Proposé par son ami.
Voilà. C'est lui qui a trouvé le dossier.
Voilà. On va écouter ce deuxième extrait dans lequel nous nous retrouvons dans le bureau du juge puisque Frank Galvin n'a pas accepté cette proposition qui lui était faite rubis sur l'ongle de l'archevêché, et donc il va y avoir procès. Et donc là, on se retrouve dans le bureau du juge entre les deux avocats, donc Francis P. Galvin qui représente la famille, la sœur et le mari de cette dame hospitalisée, et puis l'avocat de l'archevêché de Boston.
I met him at the club the other night.
Good guy.
You're late to see Alvin.
I know, I'm sorry.
Yeah. Why is that?
I just got held up.
Ed Kunkel.
Hi, Frank Galvin. We met before.
Well, here. Let's do some business. Well, they tell you no bargain ever was completed. Other than quickly when both parties really care to make a deal. Well, now, have you boys tried to resolve your little difficulties? Because that certainly would save the Commonwealth a lot of time and bother.
Well, it's a very complicated case, Your Honor.
Oh, yeah, I'm sure it is, Frank, but let me tell you something. If we find it so complex, how the hell do you think you're going to make a jury understand it? See my point? Now, let's talk a minute. Frank, what would you and your client take right now, this very minute, to walk out of here and let this damn thing drop?
My client can't walk, Your Honor.
I know full well she can't, Frank. You see the padre on your way out. He'll punch your ticket. You follow me? I'm just trying to help you.
Your Honor, Bishop Brophy in the Archdiocese, I've offered plenty of $210,000.
What?
My doctors didn't want a settlement at any price. They wanted this cleared up in court. They want their vindication. I quite agree with them. But for today, the offer stands before the publicity of a trial begins. For today only. But when I walk out that door, the offer is withdrawn. Just so long as you understand that, Mr. Galvin. It got to be that way.
Well, we're going to try the case.
That's it? Oh, come on, guys. Life is too short. Now, you tell me if you're playing chicken or you really mean it. Frank, I don't think I'm talking out of school, but I just heard someone offer you 200 grand. Now, that's a lot of money. And if I may say, you haven't got the best of records.
Things change.
Oh, that's true. Sometimes they change and sometimes they don't. Now, I remember back to when you were disbarred.
I wasn't disbarred. When is Dropped the charge.
It seems to me. The fellow's trying to come back. He'd take the settlement. Get a record for himself. I myself would take it and run like a thief.
I'm sure you would.
We have the date set. Next Thursday. Good. Well, see you boys in court.
All rise.
Parlez-nous de cet extrait.
Ah, c'est un extrait formidable, c'est un extrait qui, là aussi, d'abord qui illustre cette tradition, cette caractéristique très américaine de négocier, qui est encouragée par le magistrat, là de manière exagérée évidemment, mais ça je crois que c'est un des premiers sujets, ils ont vraiment cette volonté d'arriver à une transaction et qu'il vaut mieux tout, il faut essayer de tout tenter pour éviter le procès. Il y a une phrase très, très forte du juge qui dit, mais attendez, le cas est si complexe, est-ce que vous arriverez, Franck, à l'expliquer simplement à un jury? Donc en gros, le jury ne pourrait comprendre que des choses simples, ce qui est quand même une vision assez condescendante du jury, mais le juge, je crois, s'illustre par sa condescendance quasiment tout le film. Mais bon, c'est une belle illustration de la tradition de négociation, de transaction. Ensuite, je trouve que c'est une très belle, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec les extraits que vous avez choisis, mais c'est une belle illustration de, comment dire, la justice américaine qui peut parfois quand même confiner une forme de justice de classe, même si Francis P. Galvin, avant, faisait partie de la même classe, ce qui est quand même un élément fort du film. Il en a été exclu, mais il en faisait partie. La première phrase de l'extrait que vous avez passé, c'est « Je vous ai vu au club, ou on s'est vu au club, je ne sais plus ce que dit le juge, mais c'est à peu près ça, on s'est vu au club il y a peu de temps. » Donc en gros, on passe du club au cabinet au club, à la salle d'audience. C'est incroyable. Et Francis Pégalvin est en dehors de tout ça, et on sent qu'il va être mis de côté parce qu'il est en dehors de tout ça. Donc il y a un côté, je crois, là-dessus, on voit l'inégalité de traitement, enfin pas de traitement, mais l'inégalité entre les parties. Et puis je trouve que...
Alors l'inégalité de traitement entre les avocats, qu'il y aura des incidences...
Qu'il y aura des incidences sur l'audience.
Sur l'audience, ah, oui, bien sûr. Et sur les parties.
Et sur les parties, exactement.
Le sort qui sera réservé.
Exactement. Hein. Ça, c'est un vrai problème. On le verra sans doute dans un des extraits que vous avez choisi aussi. Plus anecdotiquement, mais pour le film, c'est important, ça montre chez Hoyle son côté... extrêmement dur avec la défense, avec l'accusation ici, avec Galvin. Il est horriblement dur, vraiment. Et ça, c'est un problème. Voilà, c'est des choses que m'évoque la scène, parmi d'autres.
Et on ressent un mépris et une incompréhension. Il y a un silence, là, en écoutant simplement l'extrait, quand il annonce qu'il va... Et puis, de toute façon, Galvin répète toujours la même chose.
Il va au procès.
Et à chaque fois qu'il le redit, il y a toujours un silence qui s'installe en se disant, mais c'est incompréhensible.
Ah oui, il ne comprend pas
Il va perdre, alors que là, il pouvait gagner sans rien faire grâce à cette transaction.
C'est ça, exactement. Ouais, c'est un vrai... Ça, c'est assez incroyable. Effectivement, le juge ne le comprend pas. De toute façon, ils ne te comprendront pas pendant tout le procès, donc ni avant ni après.
Et on ne l'a pas dit. Alors, son adversaire dans cette affaire, qui est-il ?
Alors, son adversaire, c'est Ed Concannon. Ed Concannon, c'est... D'ailleurs, moi, je trouve, je ne sais pas vous, mais qui est formidablement joué par James Mason, qui est un acteur immense. J'ai revu l'affaire Cicéron il n'y a pas très longtemps, rien à voir, mais qui est, où il est génial dans le rôle du majordome de l'ambassade. C'est donc un avocat. Alors lui, pour le coup, c'est la représentation parfaite de l'establishment de la Nouvelle-Angleterre de ces années-là, qui manipule les journaux, qui connaît tout le monde, qui dîne avec tout le monde, qui écrase Galvin par sa prestance, par son éloquence, par son argent, par ses moyens, par ses manières, etc. Et ça je trouve que lui mettre le rend très très bien dans cette scène aussi. Prendre le thé, avec le café plutôt, avec le juge Hoyle, ils sont du même monde.
Ils sont du même monde, tout à fait. Oui, il les convie, oui, parce qu'il ne perd pas une minute. On a l'impression que c'est un homme très affairé, ce juge.
Ouais, ouais.
La discussion est organisée pendant qu'il fait son plateau déjeuner.
Ouais, voilà. C'est incroyable, ce qui dit beaucoup quand même de comment il traite les avocats. Hein. Ouais.
Mais en même temps, ils sont dans le même club.
Ils sont dans le même club.
Voilà. Et donc là, on a ce hiatus entre deux séries d'avocats entretenus par le juge. Et on va avoir, évidemment, en personnage principal, le personnage de Ed Concannon étant un personnage secondaire, mais on va avoir ce Frank Galvin qui va, à travers cette affaire, qui était une affaire qui lui a été donnée, hein, qu'il n'a pas choisie, petit à petit, trouver des ressources au fond de lui-même, grâce aux ressources juridiques, judiciaires, ouais, jurisprudentielles.
Ouais. Ah bah oui, mais je trouve que pour Galvin, ce procès, effectivement, c'est un procès qui est pour lui aussi le moyen d'une incroyable introspection. Il trouve tout, il trouve chez lui le moyen de se battre. Vous connaissez la scène, évidemment, l'extraordinaire scène du Polaroid, où il prend un Polaroid, et au fur et à mesure que le Polaroid fixe les traits de la jeune plaignante, Galvin prend conscience qu'il ne peut pas la laisser tomber. Et donc, il va chercher au fond de lui-même les ressources qu'il va additionner avec le droit, parce qu'il a le droit pour lui, clairement, dans ce dossier, pour gagner.
On y reviendra. Cette position du magistrat est donc une position que l'on trouve en retrait, hein, même si là, il est clairement en train de choisir son camp, ça correspond effectivement au mode de fonctionnement de la justice, vous nous l'avez dit, hein, la procédure accusatoire, ça c'est la procédure qui est conduite par les parties, chacun devant amener ses preuves. Hein. Donc cette position du juge en retrait va nous amener à parler, évidemment, du rôle du jury, qui a été ici évoqué. Il ne pourra rien comprendre à l'affaire, parce que c'est une question médicale avec des termes médicaux, exactement, mais va nous amener également à évoquer le rôle des deux avocats,
oui,
qui vont avoir maille à partir entre eux et puis dans cette affaire. Merci Thibaut de nous avoir accompagné autour de la découverte, non seulement de votre ouvrage un petit peu, nous a donné le goût de le parcourir,
vous,
et puis de la justice états-unienne, des films de prétoire et des films de Lumet en particulier.
Merci beaucoup, merci.
Merci à vous, merci à Marine Hirsinger pour son travail derrière les manettes. Thank you.